Bonjour à tous. Un fil conducteur pour cette grande table du lundi. Comment raconter 12h55, les conflits sociaux, une bataille et des images. Invité ce midi, Lech Kowalski, le réalisateur de On va tout péter, présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et diffusé ce soir sur Arte dans le cadre de son festival du documentaire. Et Jean-Marc Ducourtiou, ancien salarié de GMES dans la Creuse. Mais d'abord, il était une fois Jean-Claude Grimbert, dramaturge multiprimé, scénariste et romancier. Il vient de recevoir le Grand Prix de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de son œuvre. En janvier dernier, il publiait un très beau conte intitulé « La plus précieuse des marchandises » au Seuil. Il vient nous en parler, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Un pays en temps de guerre et donc de grande faim. Une forêt, de la neige en hiver et un train qui passe au loin. Parfois, des mains se tendent et lâchent des petits mots. Un jour, c'est un petit paquet qu'un bras passé entre les barreaux de la fenêtre abandonne dans la neige. Regardant tous les jours les trains passer, une pauvre bûcheronne en mal d'enfant le voit et ramasse la précieuse marchandise. Et par ce geste, recueille le bébé emmitouflé et découvre l'amour qui lui manquait. Bonjour Jean-Claude Grimbert.
Bonjour.
Un deux couples en miroir dans ce conte, la plus précieuse des marchandises parue au Seuil, les pauvres bûcherons et un couple convoyé que certains appellent les sans-cœurs. Tout semble les opposer, mais l'histoire va les unir ou les réunir. Vous pouvez nous les présenter ?
Oui, c'est d'abord un couple de bûcherons qui n'ont pas d'enfants. Elle s'en lamente et le bûcheron s'en réjouit parce que pas d'enfants à chérir, mais pas d'enfants à nourrir, voilà. Et puis de l'autre côté, disons de notre côté, dans la ville de Paris, un jeune couple qui a la grâce d'avoir deux jumeaux, mais dans une année qui est pas terrible pour accueillir des enfants juifs, c'est 1942, et donc tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que la famille est arrêtée à Drancy, puis de Drancy dans un train, et l'un des bébés va être pas tiré au sort par le père, mais voyant que la mère n'a plus de lait pour les deux, il se dit peut-être qu'un seul aura assez de lait et que l'autre peut-être trouvera une autre vie. Et donc, il jette l'un des enfants par la petite lucarne de ce wagon à bestiaux, voyant une femme qui a l'air de faire des gestes au train, puisqu'elle attend, son mari lui ayant dit que, le bûcheron ayant dit à la bûcheronne que c'était un train de marchandises, elle attend qu'on lui jette des marchandises. Voilà. Et donc cette marchandise si précieuse, elle va la recueillir et elle va l'aimer comme son propre enfant.
On ne dit pas les juifs dans ce conte, on dit les sans-cœurs. En tout cas, c'est comme ça que les autres les appellent.
Voilà, les autres les appellent. Mmh. C'est-à-dire que quand on est dans le bois, il s'agit plus des juifs, il s'agit des sans-cœurs, ceux qui ont tué Dieu, les voleurs. Dans la partie, disons... citadine, il s'agit bien des juifs qu'on appelle aussi les étoilés. Voilà.
Les sans-cœurs, ça c'est des mots qui ont existé ?
Sans doute. Vous savez, tout a existé. La profusion d'inventions, si vous lisez les écrivains du 19e siècle, sans parler du Moyen-Âge et tout ça, mais enfin, il y a eu... autour de la libre parole de Drummond et du journal La Croix, par exemple, qui étaient les journaux les plus antisémites qu'on pouvait imaginer. Et ensuite, la suite, c'est-à-dire que Céline, Robatet et tant d'autres ont inventé des termes, des comparaisons avec les singes. Est-ce que les nègres sont plus... lâche que les juifs, est-ce que... Voilà, il y avait une phrase de Céline, c'était que le cerveau du nègre et finit à 4 ans. Voilà. Donc, et donc les juifs étaient pires. Voilà, il y a tout eu. Hein. On peut. Pendant un temps, j'ai collectionné ces livres de. Qui parlait de moi, quoi, en fait.
Et puis, vous avez refermé tout ça ?
Oui.
Parce que ?
Parce que, visiblement, le racisme est multiple, que c'est sans arrêt, qu'on invente toujours. Et puis, je me suis rapproché du judaïsme en m'éloignant des antisémites, voilà.
Quand on appelle quelqu'un, comme dans ce conte, un sans-cœur, c'est qu'on lui retire même le droit, la capacité d'aimer. Ne plus avoir de cœur, c'est ne plus être humain. Or, c'est un conte justement sur l'amour, sur ce que peut l'amour, la force de l'amour.
Oui, et c'est un conte aussi sur la déshumanisation, c'est-à-dire voulue, organisée, pensée. Et donc, il y a en parallèle l'amour qui monte du bûcheron et de la bûcheronne vers l'enfant, et puis la déshumanisation que le père dans le camp subit et se sent subir. Voilà.
Les sans-cœurs ont un cœur, dit pauvre bûcheron, qui à un moment réalise que peut-être on lui a menti jusqu'ici, qu'il a fait fausse route contre la propagande qui sévit, contre cette déshumanisation de l'autre. La vérité pour lui va s'imposer d'un geste, une main posée sur un petit cœur qui bat sous une peau douce comme de la soie. Et là, c'est son cœur de pierre à lui qui va fondre. Et c'est son esprit qui va s'ouvrir avec ça. Ainsi l'avez-vous pensé. Il était une fois. Dans ce livre, on retrouve tous les ingrédients traditionnels des contes, au départ en tout cas. Un conte qui commence un peu à la manière du Petit Poucet, puis vous balayez cette figure si populaire. C'est un conte qui est loin d'être joyeux en plus, le Petit Poucet. On vous l'a raconté quand vous étiez petit, vous ?
Alors je ne pense pas. Mon frère et moi, on était cachés. Mon père était déjà déporté. Ma mère n'avait pas le droit de savoir où nous étions, puisque tout était cloisonné. Et je sais pas. Enfin, je me suis rattrapé, j'ai travaillé beaucoup sur les contes, j'ai écrit beaucoup de pièces à partir de contes, que ce soit de Perrault ou de Dickens. Il y a quelque temps, j'ai lu Pinocchio, et quand j'ai refermé Pinocchio, j'ai dit à mon épouse... je ne lirai plus que Pinocchio. Voilà. Donc, c'est un amour des contes qui est venu...
Sur le tard.
Sur le tard, un enfant très arriéré, disons.
Et vous aviez déjà adapté pour le théâtre Le Petit Chaperon Rouge, qui était devenu Le Petit Chaperon Uff.
Oui. Pourquoi... C'est le petit chaperon confronté aux lois de Vichy.
Aux lois de Vichy.
C'est-à-dire, elle n'a pas le droit de porter du rouge, il faut porter du jaune. Elle n'a pas le droit d'amener du beurre, il faut qu'elle amène du saindoux. Voilà, il y a... Non, mais... C'est... Alors maintenant, il y a des extraits dans les livres de lecture, c'est beaucoup joué par les scolaires et tout, et ça, c'est quelque chose qui me fait... Je suis un enfant des bibliothèques municipales et des cours moyens, c'est-à-dire je n'ai pas eu de... J'étais apprenti à 14 ans, donc je suis très flatté et très heureux de savoir que je suis dans les livres de lecture des enfants. Voilà.
Alors de Amen au cinéma, à l'atelier, au théâtre, Jean-Claude Grimbert, vous continuez à écrire sur les profondeurs de l'histoire, sur la déportation, sur l'Holocauste, sur la guerre. Cette fois-ci, vous avez donc choisi la forme du conte pour parler de ces ténèbres-là. Le conte qui semble être pour vous la manière la plus juste à ce moment-là de votre écriture, de votre vie, de mettre en récit ce qu'on appelle toujours l'indicible, l'inimaginable. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi le conte ? Je vous propose d'écouter les mots de l'écrivain Pascal Quignard.
Je pense que les contes sont les seuls morceaux de langage qui reconduisent, comme un cordon ombilical, à autre chose que le langage, aux plus anciennes images, aux plus anciennes prédations, au monde d'avant, aux métamorphoses du monde d'avant. Les contes sont à mi-chemin entre les rêves que les animaux ont et les romans que les humains écrivent. C'est cette poste-là qui me paraît dans les contes les rendre fascinants, mais en plus que cela, ils n'ont pas de signification directe. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais les réduire à quelque chose, parce que chacun d'entre nous les éprouve et au travers d'eux fait l'épreuve d'expériences qui changent à chaque fois. Et cette absence d'identité aussi au sein des contes est une très belle chose.
Alors est-ce qu'on utilise la forme du conte quand on est encore en quête de sa propre identité, parce que c'est aussi un mode de récit qui vous emmène, vous l'écrivain, entre le rêve et la réalité?
Sans doute, tout ce que dit Quignard est très beau et très juste. On peut dire beaucoup de choses sur les contes. Pour moi, j'étais un homme très en colère. Voilà, 13 ans. C'est-à-dire, cette histoire, j'ai dû me soigner pour pouvoir vivre socialement, sans vociférer, sans hurler, sans... Et le conte, le conteur est obligé d'être calme. Il s'adresse... Alors, des personnages peuvent être très en colère dans un conte, mais le conteur lui-même ne peut pas l'être. Voilà. Et c'est cette manière de parler. En général, on est conteur auprès des enfants. On n'essaye pas de leur imposer quelque chose. On raconte d'une voix mesurée, disons. Ça donne une distance, voilà. C'est le détour qui fait qu'on peut présenter des personnages absolument négatifs ou des personnages, voilà. On peut parler de l'amour, on peut parler de l'espoir, on peut parler de l'horreur. Il y a beaucoup de choses très horribles qui sont véhiculées par les contes, mais le conteur, lui, n'est pas derrière ces mots-là. Voilà. Et c'est une manière de s'adresser, alors dans ce cas-là, aux adultes, comme si on parlait à des enfants. Et c'est cette distance que sans doute je recherchais au moment où j'ai écrit ça. Alors je l'ai écrit sans dessin, sans me dire je suis en train d'écrire un conte. Voilà, une fois qu'on a posé « Il était une fois », on a une sorte d'ouverture sur un monde simplifié qui peut justement évoquer cette chose incroyable et qu'on dit indicible à juste titre, c'est-à-dire que je ne peux pas témoigner de ce que je n'ai pas vécu. Voilà, j'étais un enfant lié à cette histoire, mais je n'ai pas subi les dommages directs. Alors, des dommages qui sont la séparation, la perte du père, bien sûr, la séparation, la mise à l'écart, les années de la première enfance. Pour mon frère, c'était encore plus dur, puisqu'il était l'aîné, et qu'il était donc à 8 ans responsable d'un môme de 4 ans. C'est-à-dire qu'on a eu des vies effectivement bizarres. Il fallait apprendre un nouveau nom, alors que je ne savais pas, presque pas mon nom d'origine, voilà. Pour beaucoup, c'était des nouvelles langues aussi. Chez moi, on parlait français, mais beaucoup de ceux que j'ai connus ont abandonné le yiddish à ce moment-là et appris le français. Voilà. Et puis, on est quand même le produit de sa propre histoire et le produit de l'histoire. Voilà. C'est la conjonction de ces deux-là qui m'ont donné un sujet... que j'ai essayé de diversifier et aussi de raconter d'autres choses. Mais il y a tellement d'histoires qui sont liées à... Tellement d'histoires, comment dire, édifiantes sur la conduite des humains dans cette entreprise de déshumanisation. Ceux qui ont tendu la main, ceux qui ont collaboré, comme on dit, qui ont participé. Et ceux, nous on est sauvés... parce qu'un commissaire de police décrète que non, on n'arrête pas les Français, voilà. Alors qu'il y en avait plein qui étaient arrêtés et on est renvoyé à la maison. Et mon épouse avait été sauvée parce que son père était prisonnier de guerre. Alors l'un des deux flics a dit non, on n'arrête pas les femmes de prisonniers de guerre. Donc voilà, c'était soumis à des choses tellement hasardeuses et arbitraires comme dans un conte. Voilà pourquoi, brusquement...
C'est elle
une fée épanouie. Intervient pour...
pour accueillir
ses enfants. Voilà, ouais. On est des lutins malmenés par des diables et aidés par des fées.
Et le conteur, celui qui écrit, c'est-à-dire vous, Jean-Claude Grimbert, il écrit avec toute cette maturité, avec toute cette vie, toute cette histoire, toute cette mémoire derrière lui, ou est-ce qu'il faut aussi, pour écrire ce conte, pour pouvoir s'adresser à cette part d'enfance qu'il y a aussi en chacun de nous, en chaque adulte, est-ce qu'il faut aller rechercher cet enfant qu'on était soi-même, pour pouvoir mettre cette histoire sous forme de conte.
Cet enfant. Ouais. Voilà, j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on vit son enfance. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, je ne pensais pas que j'avais eu une enfance particulière. J'étais un enfant parmi des enfants, j'allais à l'école. Alors de temps en temps, il y avait des réflexions qui faisaient qu'on réagissait. Mais c'est peu à peu. Par exemple, l'angoisse, j'étais certainement un enfant angoissé. Mais je n'ai pas vécu ça comme ça consciemment. C'est-à-dire que la conscience vient plus tard. Quand on se tourne vers sa propre enfance, on peut la déchiffrer. Mais là, j'ai eu aucun effort à faire. C'est une chose qui est venue, que j'avais abandonnée, c'est la petite marchandise qui m'a fait revenir. J'ai eu un cancer entre-temps, j'ai abandonné ça, j'ai abandonné plein de trucs et j'ai repris que cette histoire-là parce que je devais trouver des solutions pour cette petite marchandise, pour qu'elle ait du lait, pour qu'elle grandisse, pour que le voilà. Et tous les personnages sont au service de la survie de cet enfant.
Il y a un précédent au théâtre aussi, c'est l'enfant d'eau que vous avez écrit, Jean-Claude Grimbert. Le nounours, couché à côté de l'enfant, demande si l'histoire est terminée. Et le grand-père Max répond « Oui, ça y est, c'est fini ». Le nounours lui dit « Mais t'es décidément un vieux con ». Le grand-père dit « Pardon ». Le nounours lui répond « Tu n'as rien d'autre à raconter ». Max ajoute « Mais qui es-tu pour me juger ?» Le nounours le reprend, je suis le nounours réformé de son père, et maintenant son nounours à lui. J'ai entendu ce genre d'histoire des centaines de fois depuis des décennies, j'en ai marre. Et le grand-père Max lui dit, mais il faut bien entretenir la mémoire. Vous avez-vous l'impression, parfois, aussi d'être un vieux con, à raconter toujours la même histoire?
Bien sûr.
Jean-Claude Grimbert.
Mais même déjà, quand j'étais tout jeune, on me disait, arrête de parler de ça, alors que je n'avais pas commencé à en parler. Donc il y a toujours eu ce jugement, on en parle trop. Voilà, on en parle trop. Et c'est vrai que le communisme est passé, que la révolution attendue n'a pas eu lieu, que le malheur que la faim dans le monde, que maintenant tout ce qui se passe, le climat et tout ça. Il y a qu'une chose qui est restée de notre ancien temps, c'est la barbarie de ces deux guerres mondiales. Voilà, il y a eu au XXe siècle une sorte de folie, c'est-à-dire que le prix de l'homme vivant a chuté. On pouvait envoyer des gens pour conquérir une colline qu'on allait reperdre le lendemain, 1500 morts, voilà. Et puis, la Seconde Guerre mondiale, eh bien, c'était la guerre où on s'attaque aux civils. Alors, il se trouve qu'ils étaient juifs. Il y a eu d'autres, mais l'idée de rayer tout un peuple de la mémoire, de la vie, ça s'attaquait à la culture, et il y avait une sorte d'assentiment. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, il y a eu une sorte d'assentiment. Les plus grands écrivains français, je ne parle pas des grands écrivains allemands aussi, voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu un consentement à ce projet absolument incroyable de détruire complètement un peuple qui se trouvait dans tous les pays européens. Voilà. Et dans tous les pays européens, on trouvait des gens pour aller les chercher, pour les ramener, et puis pour les transporter. Voilà. Il y avait des gens qui voyaient bien qu'ils transportaient dans des trains, dans des conditions animal, des êtres humains, ben les trains roulaient quand même. Voilà. Et donc il y a eu... C'est une histoire dont on ne peut pas se défaire. C'est-à-dire que Beckett, s'il écrit Godot, c'est pour finir, c'est-à-dire après, lorsqu'on découvre les camps, on ne peut plus écrire des pièces pour expliquer comment vivre, on ne peut plus écrire comme Monterland, et ni même comme Sartre. C'est-à-dire qu'il y a une coupure, en tout cas au théâtre, qui est très nette, et en littérature, eh bien ça donne des milliers de livres. Quand j'étais jeune, je pouvais acheter tous les livres qui sortaient sur le sujet. En français, du moins. Voilà. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que mon appartement, qui est quand même assez vaste, n'allait plus suffire. Et que maintenant, voilà. Alors, on se dit, qu'est-ce que les gens écriraient si ça n'avait pas eu lieu? Mais on ne peut pas écrire comme si ça n'avait pas eu lieu. Voilà. Ça a eu lieu. Et c'est pas plus jamais ça, c'est peut-être ça encore, puisque ce qui a eu lieu est possible. Voilà. C'est ça j'ai l'air de m'exalter comme ça. Voilà. Dans un conte, on peut pas parler comme ça. Dans un conte, on est obligé de parler et de raconter les choses et de les poser et si possible même de faire sourire.
Et il y a effectivement de l'humour, de la tendresse, en tout cas dans vos mots, Jean-Claude Grimbert. D'ailleurs, c'est aussi ça que le jury de la Société des gens de lettres a récompensé chez vous la semaine passée en vous désignant lauréat de son prix de la Société des gens de lettres. Jean-Claude Grimbert a ce don rare de faire surgir de l'humain et de l'humour au cœur de l'effroi. Voilà ce que disait l'écrivaine la semaine dernière, Marie Cellier. Jean-Claude Grimbert, il y a ce train, c'est peut-être justement le seul ingrédient contemporain, c'est la seule mythologie contemporaine qui surgit dans ce conte où l'on retrouve dans la forêt, dans la figure du bûcheron, dans celle de l'enfant, dans celle des méchants qui les poursuivent aussi, tous les ingrédients traditionnels des contes, sauf ce train qui surgit vraiment et dont on ne sait pas où il mène, vers quel enfer ou vers quel ailleurs. Et que la bûcheronne, d'ailleurs, prie et vénère comme si c'était un dieu, ce train, hein, qu'elle ne visualise pas. Le père des ex-jumeaux, écrivez-vous, souhaitait mourir, mais tout au fond de lui poussait une petite graine insensée, sauvage, résistant à toutes les horreurs vues et subies, une petite graine qui poussait, lui ordonnant de vivre ou tout au moins de survivre. Cette petite graine d'espoir indestructible, il s'en moquait, la méprisait, la noyait sous des flots d'amertume, et pourtant, elle ne cessait de croître malgré le présent, malgré le passé, malgré le souvenir de l'acte insensé qui lui a valu que sa chair est tendre, ne lui jette plus un regard, ne lui adresse plus une seule parole avant qu'il ne se quitte sur ce quai de gare, sans gare, à la descente de ce train des horreurs. Qu'est-ce qui peut encore donner envie de vivre dans la noirceur du monde, plus noir encore que le noir? Vous donnez la réponse, ou presque, à moins qu'il ne s'agisse de la morale de l'histoire. Vous nous dites que l'amour est peut-être la seule chose qui mérite d'exister dans des histoires comme dans la vraie vie. Il faut parfois aller le chercher bien profond, cet amour aussi.
Oui. Il faut être vieux. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des mots que je peux prononcer aujourd'hui, que je vais atteindre 80 ans. Et d'autant plus que là, je viens de perdre mon épouse. Et je pense qu'il n'y a que ça. Voilà. L'amour est l'amour pour les enfants. C'est ce qui donne envie, c'est ce qui fait que la vie continue. Sinon, effectivement, si on était raisonnable, tout ce qu'on entend, que ce soit à la radio, tout ce qu'on voit à la télévision, tout ce qu'on lit dans les journaux et tout ce qu'on constate, on ne devrait plus faire d'enfants. Le fait qu'on en fasse encore, c'est qu'on est là pour ça. On est là pour que ça continue. Voilà. Malgré les horreurs. Alors, il y a des gens qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Ou d'en avoir plein. Mais, en fin de compte, on remplit sa vie avec les moyens du bord. On ne peut plus croire qu'à un avenir radieux, on ne peut plus croire, mais on croit qu'il est important que la vie sur Terre continue. Et que c'est... Moi, dès que je croise un enfant, voilà, toute la journée, je croise des enfants, je regarde chaque enfant. J'ai envie de pincer les joues de chaque enfant, comme on faisait à ma fille sur les bateaux grecs. Tous les Grecs qui passaient lui pinçaient les joues. Si bien qu'elle marchait avec les mains sur ses joues pour éviter... Voilà, non mais ça a l'air un peu niais ce que je vous raconte, parce que je suis très émotif ces temps-ci. Je pense que... Je pense qu'on est là pour ça. Pour aimer. Et que j'ai beaucoup eu de raisons d'haïr, j'ai beaucoup eu quand on écrit, on peut pas écrire toute sa vie pour dénoncer, pour dire que la vie c'est terrible, que il faut aussi dire que ce qu'on vit, bon, c'est ça le bonheur, c'est de vivre et de pouvoir échanger avec des enfants, de pouvoir les voir grandir, de pouvoir voir ses petits-enfants. Voilà. C'est une chose...
C'est la seule histoire vraie. Et vous n'en avez pas fini d'écrire, vous, Jean-Claude Grimbert ?
Ça.
Vous n'en avez pas fini d'aimer ?
Je suis dans une position où j'aime de plus en plus les enfants, mais pour le reste, je pense que j'ai fini, oui.
D'écrire,
je ne sais pas. Vous savez, j'avais l'impression d'avoir fini d'écrire quand j'ai commencé à écrire ce conte. Donc, les impressions passent. On ne maîtrise pas le désir d'écrire, pas plus qu'on ne maîtrise le désir de vivre. Voilà.
Et notre besoin d'aimer. Merci beaucoup à vous, Jean-Claude Grimbert.
C'est moi qui vous remercie.
La plus précieuse des marchandises, un conte qui a paru en janvier dernier, au Seuil, à lire, à amener avec vous, partout où vous allez, dans la collection La Librairie du XXIe siècle. Merci encore.